L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et c'est donc votre rendez-vous avec l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics que sont RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. Et d'abord des fouilles, Nicolas Sûr, elles ont commencé à Thiaroye dans la banlieue de Dakar au Sénégal.
Il s'agit d'identifier de possibles fosses communes où seraient enterrés les tirailleurs tués par l'armée française le 1er décembre 1944 dans un camp militaire alors qu'ils manifestaient pour réclamer leur prime de démobilisation.
Au Canada, on reparle de la langue française. Nadi Mobarak, le gouvernement du Québec veut obliger les diffuseurs de contenu en ligne à mettre en avant les productions francophones.
Oui, les millions de Québécois abonnés aux plateformes Netflix, Spotify, Apple, entre autres, pourraient donc bientôt y trouver plus facilement des contenus locaux.
En France, le département du Var, touché durement par des pluies torrentielles, cette semaine, trois octogénaires sont décédés. Un épisode soudain, une nouvelle fois, qui a fait énormément de dégâts au Lavandou, notamment, nous y serons dans quelques instants. Et puis en Suisse, c'est un village qui est en sursis. Les 300 habitants de Blatten, dans le canton du Valais, ont tous été évacués en début de semaine. Des pans entiers de la montagne pourraient s'effondrer et engloutir les maisons, Xavier Alonso.
C'est un village suspendu aux éléments et à la montagne qui le domine. 5 millions de mètres cubes de roches menacent de tomber. Un scénario du pire qui réécrit la relation des Suisses avec leur montagne entre fascination et crainte.
Enfin, il vient du sud et il est en train de s'installer durablement en Belgique. Le moustique tigre se répand sur le territoire belge et il inquiète les responsables de la santé publique, Jacques Kremers.
Oui, car le moustique tigre est un vecteur de maladies tropicales comme la dengue, le zika ou encore le chikungunya. Sa présence a été signalée dans une vingtaine de communes et il est bien confirmé désormais qu'il hiverne sans périr dans plusieurs localités.
C'est un épisode sanglant de la colonisation française. Le 1er décembre 1944, l'armée française ouvrait le feu sur des tirailleurs sénégalais démobilisés de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est passé dans le camp de transit de Thiaroye, près de Dakar. On ignore toujours le bilan exact alors qu'il est de ce massacre. Pour le savoir, eh bien, des fouilles archéologiques ont donc été lancées, Nicolas.
Oui, comme le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait annoncé en février dernier, les fouilles ont démarré. Elles se concentrent pour le moment sur le cimetière de Thiaroye. Depuis deux semaines, des archéologues de l'université Cheikh Diop sondent la terre pour localiser les squelettes ou de possibles fosses communes. Car en 2020, un député français, citant l'armée, évoquait dans un rapport présenté au Parlement l'existence de trois fosses communes situées sous les tombes anonymes du cimetière. Pour ce travail complexe, aucune limite de temps n'a été fixée. Les résultats des investigations seront consignés dans un livre blanc qui doit être remis au président Bassirou Diomaye Faye dans les prochaines semaines. D'ici là, ils resteront secrets.
Et plus de 80 ans après les faits, l'espoir, c'est donc de réussir à lever le voile sur le nombre exact de tirailleurs massacrés le 1er décembre 1944.
Ce jour-là, l'armée française ouvrait le feu sur des soldats venus de toutes les colonies d'Afrique de l'Ouest et tout juste rapatriés d'Europe où la guerre se terminait. Ils manifestaient pour réclamer le paiement de leur prime de démobilisation, les mêmes que celles qui avaient été versées à leurs camarades d'armes en métropole. Combien furent tués ? Les archives de l'armée française parlent toujours de 35 morts, mais plusieurs historiens estiment le nombre de victimes à plus de 350.
Le massacre de Thiaroye donc au Sénégal. On reparle à présent de la langue française. Le gouvernement du Québec estime donc qu'il est trop difficile de trouver des séries et de la musique québécoise sur les grandes plateformes de diffusion. Il est question ici de Netflix ou de Spotify notamment, on a dit.
Oui, et c'est pourquoi le ministre de la Culture et des Communications a déposé un projet de loi mercredi dernier pour donner plus de visibilité au contenu francophone sur ces plateformes numériques qui sont majoritairement américaines. Pour le ministre Mathieu Lacombe, le moment est venu de légiférer devant l'hégémonie des géants du numérique.
Chaque année au Québec, si vous prenez toute la musique qui est écoutée, 8,5% est en français. C'est très, très peu.
Effet à noter, c'est la première fois que le Québec légifère dans ce domaine.
Et comment le Québec va-t-il s'y prendre pour forcer ces géants à bouger ?
Eh bien, il va leur imposer des quotas, puis des sanctions s'ils ne se conforment pas aux nouvelles règles. Le ministre Lacombe assure que le Québec peut imposer sa loi comme l'ont fait d'autres juridictions, comme en Europe notamment.
Il y a des États à l'intérieur de l'Union européenne qui ont légiféré. Et on ne parle pas toujours d'États aussi populeux que la France. Et là-bas, ça fonctionne.
Les géants du numérique pourront négocier avec Québec pour déterminer la taille des quotas s'ils investissent en contrepartie dans des productions locales.
Alors, quelles sont, pour terminer, Nadie, les réactions à ce projet de loi?
Dans le milieu culturel québécois, les premières réactions sont plutôt bonnes. Le milieu musical fait de la découvrabilité un cheval de bataille depuis longtemps. Mais la présidente de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, Ève Paré, rappelle que plus de visibilité ne réglera pas tous les problèmes.
Les redevances sont faméliques. Ce n'est pas l'augmentation de la consommation sur les plateformes qui va tout changer, mais ça sera à tout le moins de l'eau au moulin.
À Québec aussi, les partis d'opposition accueillent positivement le projet de loi du gouvernement Legault.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En France, le département du Var touché par des pluies orageuses mortelles cette semaine. La brusque montée des eaux a tué 3 octogénaires, une femme piégée dans sa voiture à Vidauban et un couple emporté au Lavandou. Dans cette station balnéaire, les habitants ont décrit des scènes de chaos. La saison touristique qui vient de commencer s'est transformée en cauchemar. En cette fin de semaine, la situation revient progressivement à la normale, mais il va falloir du temps pour tout réparer. Mathilde Vinceneux s'est rendu au Lavandou en milieu de semaine pour ici.
Le torrent qui a déferlé sur ce quartier en bord de plage n'a laissé derrière lui que des carcasses de voitures, des troncs d'arbres et des pylônes couchés. Dans la boue, Gaëlle tente de se frayer un chemin avec sa petite fille de 2 ans dans les bras. Elle est encore choquée.
Il y a un mur qui est tombé à côté de chez nous, donc on est allé se réfugier chez notre voisin. Il y a une bonne solidarité ici, c'est un petit village, tout le monde se connaît, il y a beaucoup d'entraide, donc ça va aller.
C'est à coups de pelle que les habitants et les pompiers tentent de déblayer les routes. Dans la rue commerçante, les terrasses des restaurants sont saccagées. Marine est la responsable de la boulangerie. Ses salariés se sont retrouvés piégés par la montée des eaux.
Vous avez de l'eau jusqu'au-dessus des hanches. J'espère ouvrir le plus vite possible, tout nettoyer.
Un peu plus loin, dans une résidence touristique, Thierry constate les dégâts. Il est ici en vacances avec sa femme.
Donc ça, c'est le coin de la résidence où toutes les voitures se sont accumulées là. Et puis les voitures, on les a vues flotter comme des petits bouchons. Et nous, la nôtre, on ne sait même pas où elle est. On est vivant, on a perdu une voiture, mais bon, on a un peu d'eau, voilà.
Les touristes comme les habitants s'échangent des packs d'eau et préfèrent relativiser en pensant aux familles endeuillées.
3 octogénaires décédés donc suite à ces intempéries. L'inquiétude à présent en Suisse, inquiétude pour le sort de Blatten, un village de montagne dans le canton du Valais. Ses 300 habitants ont été évacués en début de semaine. Avec une question, Xavier, le village va-t-il être englouti par les éboulis de roches? C'est un scénario en tout cas qui se répète.
Au moins 5 villages alpins ont été évacués au cours des 10 dernières années. À Blatten, c'est toute la population qui a dû quitter son foyer sans savoir quand un retour sera possible. Pourtant, le scénario du pire semble s'éloigner. La montagne s'effrite, mais elle ne tombera pas d'un coup. 2 millions de mètres cubes de roches se sont déjà détachés progressivement. Un événement que les spécialistes redoutent de voir se répéter. Le géologue Guillaume Favrebulle.
Est-ce que c'est le permafrost? C'est pas impossible que ces fortes années de réchauffement aient permis de réchauffer la roche en profondeur. Mais pour l'instant, on n'a aucune vraie certitude sur quel est l'événement déclencheur. Le fait que tout ce versant se mette en mouvement, c'est quand même assez surprenant et incroyable.
Voilà, le géologue Guillaume Favrebulle à l'instant. Xavier, ces catastrophes en montagne interpellent les Suisses parce qu'elles sont aussi constitutives de la culture suisse.
D'Herborance, écrit en 1934 par Charles Ferdinand Ramu, est un classique de la littérature suisse. Ce roman raconte déjà un village englouti par la montagne qui tombe. L'occasion pour Stéphane Petermann de l'Université de Lausanne de mettre en perspective.
Ramu s'inscrit dans une tradition, effectivement, la montagne dans la représentation, qu'elle soit picturale ou littéraire en Suisse, elle a toujours eu deux versants, un versant catastrophiste, de force qui domine l'homme et qui le détruit, et puis le versant plus idyllique, c'est la montagne de Heidi, où on idéalise cet espace, et puis on est toujours à naviguer entre ces deux versants.
À propos de versants sécuritaires, de nombreuses voix demandent une actualisation des cartes des dangers. Une maison sur 6 serait située en zone menacée en Suisse.
Et à propos de cartes de danger, dans un autre registre, on va se quitter avec la présence du moustique-tigre en Belgique. C'est une espèce invasive et elle commence à se répandre de plus en plus dans de nombreuses communes. La santé publique s'en inquiète parce que ce moustique, eh bien, il est vecteur de maladies tropicales comme la dengue, le Zika ou encore le chikungunya, Jacques.
Ce petit bruit caractéristique qui vous agace et vous met en alerte au milieu de la nuit, c'est celui d'un moustique commun, car le moustique tigre, lui, est diurne et silencieux. Originaire des forêts tropicales, ce petit insecte est reconnaissable à ses rayures blanches, sur le thorax et les pattes. Il arrive souvent avec des passagers ou des marchandises, ce qui fait qu'on le repère fréquemment le long des autoroutes. Mais l'insecte se répand, la santé publique a confirmé cette semaine sa présence dans 21 communes, dont la moitié pour la première fois, et cette fois, il est bien confirmé qu'il hiverne sans périr dans plusieurs localités. De quoi inquiéter raisonnablement cet épidémiologiste, car l'insecte est vecteur de virus de maladies tropicales.
Pour qu'il transmette des virus, trois conditions doivent être présentes. La première, c'est qu'il soit présent et qu'il soit établi. La deuxième, c'est qu'il y ait quelqu'un qui revienne de voyage malade, qui revienne de voyage là où le virus circule. Et la troisième, c'est que le moustique pique la personne malade ou virémique, et par après aille piquer une autre personne.
Les résultats de 3 années de surveillance montrent donc clairement que le moustique tigre ne fait pas que pénétrer et se répandre en Belgique. Il commence aussi à s'y établir durablement. Chaque citoyen est invité à prendre des mesures préventives en supprimant les lieux de ponte contenant des eaux stagnantes et en signalant la présence de l'insecte à la santé publique.
Jacques Rémer, c'est la RTBF pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci à vous pour votre fidélité. Les médias francophones publics reviennent avec plaisir la semaine prochaine. Même endroit, même heure.